Bonjour, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, dans l'émission de l'association des cinéastes documentaristes ad hoc. On a déjà traité le sujet. Aujourd'hui, dans notre émission que nous avons intitulée « Le virtuel et nous », nous accueillons une réalisatrice, Éléonore Gilbert, pour son film « Teint le paradis ou la balade d'Héloïse ». Bonjour Éléonore.
Bonjour.
Et un réalisateur, Nathan Casté, pour son film « En attendant les robots ». Bonjour Nathan.
Bonjour.
Ces films ne se ressemblent pas dans la forme, mais ils traitent tous les deux du frottement entre le réel et le dématérialisé. Ils posent la question d'un monde en plein chamboulement, où l'intelligence peut même devenir virtuelle, paraît-il, où le numérique peut devenir notre réalité. Conformément au principe de cette émission, elle a été préparée et animée par des cinéastes, en l'occurrence aujourd'hui par moi-même Caroline Kim-Morange, et la technique est aussi assurée par une réalisatrice membre d'ad hoc, Niki Velisaropoulou. Donc je vais commencer par vous présenter les deux films, l'un après l'autre. Je commence par Teint le paradis ou la balade d'Héloïse, d'Éléonore Gilbert. Donc c'est un film qui fait 32 minutes, qui est sorti en 2022. Éléonore, tu vis aujourd'hui, tu me corriges si je dis des bêtises.
Hein. Oui.
Tu vis aujourd'hui et tu travailles à Grenoble, où tu partages un atelier avec un collectif d'artistes, Utopia 812.
Utopia 182.
Utopia 182, ça c'est un problème de fatigue. Tes films sont souvent à la croisée de la fiction et du documentaire, et tu y creuses des thèmes comme l'obéissance, la soumission, la complexité de la mise en œuvre de zones de liberté, et c'est en l'occurrence le cas dans ce film aussi. Tu as d'abord réalisé Espace en 2014, Hôtel Écho en 2018, Éteint le paradis ou la balade d'Héloïse récemment en 2022. Film qui a été sélectionné dans de nombreux festivals et c'est d'ailleurs dans l'un d'eux que l'on s'est rencontrés. Sympathique festival ad hoc, ADHOC, que je conseille à tout le monde à Mirabel et Blacon. Et donc dans ce film, tu nous entraînes dans une balade le long des rails, dans des trains, jusqu'à des arrêts aux noms parfois évocateurs, et puis encore un petit peu plus loin, le tout guidé par une voix off, qui interroge ces petits moments de dématérialisation de notre vie quotidienne. On va écouter un extrait, et ensuite on va te demander d'en dire un petit peu plus.
Serait un monde où il n'y aurait presque pas de zone de faille. Un monde où on ne pourrait plus se glisser. J'ai parfois l'impression que ça se resserre. J'étais à Paris et je devais aller à 7. J'ai couru vers le quai. Je voulais sauter dans le train. Et soudain, là où il n'y avait rien d'autre que de la continuité, avec peut-être un changement de texture sous les pieds, une légère modification du revêtement ou de la couleur du sol, il y avait maintenant des barrières de métal, de vitres et de lumière bleue. Bien sûr, il suffisait d'avoir son billet et de le passer. Ça ferait bip et je serais de l'autre côté. Rien de très compliqué. Un billet pris avant, où on donnerait son nom, son prénom, son âge et son sexe. Je ne pouvais pas passer. Je n'avais pas eu le temps. Je pensais sauter dans le train, me glisser, puis m'arranger à l'intérieur. Je sais que ça peut encore exister de pouvoir courir et sauter dans le train. Mais ça commence à ne plus exister, c'est pour ça que ça se voit. Parce que les choses se voient quand elles commencent juste à ne plus exister. C'est pour ça que je parle de tout ça. C'est parce que je peux encore en parler. Plus tard, je n'en parlerai plus, j'aurai tout intégré. Je ressentirai peut-être des choses profondément, sans savoir. Peut-être, mais je ne saurai pas vraiment pourquoi. Je ne verrai pas. Tout sera normal. Ça sera comme ça. C'est tout.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire. On vient d'écouter un extrait du film de Éléonore Gilbert, Tint le paradis ou La balade d'Héloïse. Alors Éléonore, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est né ce film ?
Alors ce film, je ne l'avais pas vraiment prémédité. J'étais en résidence d'écriture avec des amis et j'essayais d'écrire un film plutôt sur la rencontre avec les animaux sauvages. Et peut-être un jour je ferai ce film, mais finalement j'ai écrit un texte qui... Parce que j'avais une sensation de traverser des états de suffocation régulièrement, comme si je me sentais contrariée finalement. Contrariée dans ma façon d'évoluer dans le monde par toutes sortes de petites interfaces qui viennent tout d'un coup entre soi et l'autre... que ce soit un autre humain ou un autre service. Et je pense que j'ai eu une sorte de moment où vraiment j'étais un peu... Alors, c'était pas maladif, mais j'avais comme une sorte de ne plus en pouvoir, en fait, de tout ça. Et en même temps, pour écrire tout ça, j'ai eu besoin de l'écrire pas en mon nom. J'ai choisi un personnage qui s'appelle Héloïse. Bon, c'est ce très léger décalage de la fiction... qui m'a permis peut-être d'écrire de façon plus candide que ce que je me permets, ou peut-être on a un autocontrôle, ou on veut, je sais pas comment dire, on tient ses propos. Et là, j'avais besoin de laisser sortir, en fait, quelque chose. Donc, il y a eu cette Héloïse. J'ai pensé, d'ailleurs, à un moment que j'aurais une actrice, finalement, c'est juste une voix, parce que j'avais besoin que ça vienne aussi s'inscrire dans un décor du réel. Et finalement, j'ai écrit ce texte. Et pendant un moment, donc, je n'ai pas vraiment su quel film ça allait être. Et c'est parce qu'elle prend le train au début que j'ai eu la piste des trains qui est venue. Et c'est parce que je voulais pas que ce soit un peu professoral et tout ça, qu'il y a eu cette idée d'aller dans des gares avec des noms un peu marrants qui viennent résonner avec ce qui se dit, sans que ce soit la finalité. C'est-à-dire que ça va résonner ou pas pour les gens. Ça commence à plus ou moins à monter à ce truc. Et puis ça finit à atteindre le paradis parce que en fait à un moment donné cette présence de ce qu'on appelle bizarrement la dématérialisation qu'on devrait appeler l'écranisation ou ce qu'on appelle le numérique, c'est-à-dire cette façon de toujours pouvoir tout mesurer, cette présence invisible et qui sait, je me suis dit mais c'est vrai que ça peut paraître très naïf, mais moi ça me fait vraiment penser à une certaine définition de Dieu. C'est invisible et ça sait mieux que toi les choses. Mmh. Ça sait mieux que toi à quelle heure tu dois arrêter, ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Ça sait mieux que toi. Parce que j'ai souvent eu dans la relation à l'autre, à partir du moment où il y avait une machine, on lui donnait à elle la possibilité d'avoir le dernier mot. Parce que sa façon de savoir avait quelque chose de l'au-delà.
Et... Concernant le choix du train, juste j'avais une petite question. À la fin du film, tu dédies ce film à Lucien Gilbert, cheminot. Alors, est-ce que ça a joué dans le fait de partir sur les rails ou pas du tout ?
C'est mon grand-père qui est mort. Oui, ça a joué parce que j'ai un très grand attachement à feu la SNCF. Parce que maintenant, je trouve que justement, c'est une espèce de truc... je reçois un stock de mails pour me, qui sont jamais mes billets, mais pour me dire que j'ai la réservation, mais c'est pas le billet. Ensuite, enfin, c'est devenu un truc que je comprends pas et qui est plus du tout du service public tel que ça pouvait l'être. Mais c'est vrai que j'avais un très grand attachement à ce service public parce que j'aime bien l'idée de que notre société invente des choses collectives. À plein de niveaux, donc le train c'est quand même un truc collectif à la base et en fait je prends beaucoup le train, c'est un truc qui commence parfois à me fatiguer et j'ai commencé à faire des images en prenant le train comme ça, parce que j'aime bien. Alors le film du coup il a trouvé son sens, comme c'est un film un peu de croquis, c'est un peu un croquis ce film, le tournage c'est un croquis, c'est qui rencontre un texte. Donc j'avais ces images croquis, et puis j'ai filmé avec des appareils vraiment pourris, parfois avec des appareils un peu meilleurs. Il y a deux personnes qui sont venues, chacun une journée, faire des images, qui sont des réalisateurs, mais qui sont aussi chef-op. Et j'ai bien aimé, parce qu'ils ont amené un autre regard. Mais il y a plein d'étages de piochage, en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que comme au début, Héloïse, elle veut juste courir et sauter dans le train, je me suis dit, bon bah allez, on va suivre la piste du train, parce que c'est la plus logique, et on va faire un voyage débile, qui passe par des gares qui sont... des gares de TER. Quand je dis débile, c'est que c'est une trajectoire absurde. Et c'est comme si c'était étrangement en allant. J'ai repéré des noms qui me plaisaient. En allant vers ces noms, je me suis retrouvée dans des bords parfois. Et ça, c'est le hasard. C'est-à-dire que Croissante, c'est vraiment dans un endroit. Il y a un train qui te dépose le matin, puis ensuite tu poirotes avant qu'il y en ait un autre, et autour, il n'y a rien. Enfin, en fait, il y a des gens qui vivent, mais plus loin. Mais l'endroit gare, c'est vraiment un peu du terrain vague. Et j'aimais bien, en fait, traverser des espaces presque abandonnés. Grande-Synthe aussi. Mm-hmm. Grande-Synthe, c'est très loin de la ville elle-même. Et il y a un train qui arrive le matin, ensuite un train le soir. Donc on est bloqué au milieu de cet espace. Ça ressemble un peu à un cimetière de train, cet endroit. C'est une zone, en fait, où il y a des locomotives qui peuvent être réparées. Et puis, en fait, autour, on entend les camions. L'autoroute a pris tout l'espace. Donc je me disais, en parlant du numérique et la nouvelle technologie, je viens aussi sur... Le train a beaucoup modifié aussi, ça a été des espaces de conquête aux États-Unis. Donc je superpose aussi des états de progrès différents, en fait, sans en faire une métaphore plus que ça.
Mmh, voilà. Mmh, d'accord. Très bien, bah merci pour cette petite introduction. On va revenir sur pas mal des thèmes que tu as abordés. Donc, on va maintenant écouter un petit peu Nathan. Donc, ton film En attendant les robots est sorti aussi en 2022. C'est aussi un court-métrage, il fait 39 minutes. Alors, toi, de ton côté, tu as grandi à Bruxelles et tu as étudié à l'Institut des arts de diffusion.
Oui, à Louvain-la-Neuve.
Voilà.
Donc,
en Belgique, à côté de Bruxelles. En attendant les robots est ton film de fin d'études. Et il a lui aussi été sélectionné et continue à être sélectionné, hein, pour tous les deux d'ailleurs, dans de nombreux festivals. C'est un film qui nous entraîne dans le monde des Turkers. Alors les Turkers, c'est ces personnages qui, alors tu m'arrêtes si je fais une mauvaise définition, mais a priori qui gagnent de l'argent en remplissant des tâches variées en ligne. Donc souvent pas très intéressante, un petit peu répétitive, pour apprendre notamment aux intelligences artificielles à devenir intelligentes, en gros.
C'est ça, et généralement pour 1 ou 2 centimes, pas beaucoup plus.
1 ou 2 centimes, la tâche.
La tâche.
D'accord. Donc du coup, le film mêle fiction, documentaire et expérimentation. Donc ça aussi, on va en parler pas mal. Et on va écouter un premier extrait. Alors le film est en anglais. Enfin, on entend les dialogues sont presque tous en anglais.
Ouais. Il y a un peu de français et un peu plus de portugais.
Un peu de français, un peu de portugais, t'as raison, il y a des dialogues en portugais. Là, c'est un extrait en anglais, alors du coup, je vais expliquer un petit peu ce qui se dit. On entend le personnage, du coup, dont ton film a vraiment un personnage, c'est Otto. Le personnage Otto, qui c'est le début du film, hein, le personnage Otto qui discute avec Phil.
Oui.
Donc un interlocuteur qui, lui, du coup, n'est pas un acteur, c'est un
vrai turqueur. Donc, turqueur, c'est l'argot que les travailleurs et travailleuses se sont donnés eux-mêmes, donc c'est pas le mot officiel qu'Amazon D'accord. leur a donné, parce que le nom du site sur lequel ils travaillent s'appelle Amazon Mechanical Turk, le Turc mécanique, et donc entre eux ils s'appellent les Turkers, donc c'est
D'accord.
le travail du clic.
D'accord. Et donc ce dialogue, bah, globalement il dit que, Otto dit que il a comme tâche de flouter les visages sur que prend ces Google Street View.
C'est ça.
Donc, pour pas qu'on puisse reconnaître les passants. Donc, on entend la souris de son travail et il discute avec Phil pour lui dire un petit peu que voilà, il est effectivement payé très très peu. Et donc, il y a ce petit dialogue entre eux. Donc, on va écouter cet extrait. Du coup, comme il est en anglais, il n'est pas très très long parce que s'il y a des non-anglophones pour qu'ils puissent rester avec nous. Et ensuite, on en discute.
Actually, it's exactly what you told me.
How is it?
I'm like in the street, and I have to localize the faces of people and to yeah. blur them.
I was actually in a street view photo
really?
In my car, and they didn't blur my face. Can you see the guy in the car waving?
It's you.
That's me.
Maybe an Amazon M Turker didn't want it to blur your face.
Yeah, maybe I don't look human.
Maybe you're not a human, you said?
Yes, maybe I don't look human to a Turker.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, dans l'émission de l'Association des cinéastes documentaristes ad hoc. On a déjà traité le sujet. Nous sommes en compagnie d'Éléonore Gilbert et de Nathan Casté pour parler de leurs films respectifs. Donc, on vient d'écouter un extrait du film de Nathan qui s'appelle « En attendant les robots ». Donc, dans cet extrait, on voit comment est fait le film. En fait, il y a le dispositif. Est-ce que tu veux nous le décrire ?
Donc il y a le personnage fictif donc de Harpo, mais qui est une sorte d'amalgame de centaines de témoignages.
Ah, c'est pas Otto, c'est Harpo.
Otto, voilà. J'ai déjà fait la. J'ai dit Harpo.
Oui.
C'est le nom du comédien, c'est le prénom du comédien
d'accord,
interprète Otto. Donc.
Ok.
Et en fait, je lui ai presque pas parlé de ce boulot le minimum avant le tournage, et en fait, je lui ai présenté mes amis collègues. Enfin, certains, dont Phil, qui est un Turker anglais, mais qui vit en Thaïlande. Et je lui ai dit, pose des questions et apprends à travailler. Donc, il travaille vraiment en parallèle.
D'accord.
Et en fait, c'était un peu le dispositif. C'est que Amazon a en fait supprimé le bureau. Il n'y a plus de bureau parce qu'on fait ça depuis sa chambre. Il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de patron. Et donc là, c'était presque l'idée de se dire, on recrée un bureau virtuel. C'est on travaille côte à côte et on allume nos webcams et les échanges étaient libres.
Voilà, donc il y a, d'un côté, on voit Otto qui est dans son habitation en train de travailler. D'un autre côté, il y a beaucoup de dialogues avec les personnes.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment le film est né ?
Pendant le confinement à Bruxelles, donc j'avais plus de boulot dans la restauration pendant mes études. Et donc j'ai tapé sur Internet comment gagner de l'argent en ligne. Et je suis tombé assez vite sur Amazon Mechanical Turk. Donc j'ai travaillé dessus en fait quand c'était encore possible en Belgique et assez vite j'ai compris que je pouvais pas gagner ma vie pour le niveau de vie d'une ville en Europe et donc mais voilà ça me trottait et puis plus tard quand il a fallu faire mon film de fin d'études dans mon école j'ai décidé d'en faire un documentaire et puis là c'était surtout beaucoup de rencontres parce qu'en fait c'est des millions de personnes qui font ça à travers le monde mais aucune raison de se rencontrer et souvent quand je les rencontrais, je vais dire 99% des gens me disaient « Ah, mais t'es le premier autre Turker que je rencontre. » Alors que je sais sans doute qu'il y en a dans ma ville ou dans ma rue même, mais voilà.
Et comment tu les as rencontrés, du coup ?
Alors, il y a eu un peu deux étapes. Il y a eu la première étape où, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des communautés en ligne, que ce soit des forums, que ce soit sur des réseaux sociaux. Et en fait, parce que Amazon était un entremetteur entre une société, on va dire, la Google, qui dit j'ai 10 millions de visages à effacer sur Google Street View. Et Amazon dit, on va vous mettre en contact avec des travailleuses et des travailleurs dans le monde entier. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on travaille une demi-journée, une journée, et en fait, des fois, on n'est pas payé. Et en fait, Amazon s'en fout royalement. Et donc, il y a des sortes de communautés de listes noires qui disent, faites gaffe, telle boîte, telle personne, ne bossez pas pour lui, il paye mal ou il ne paye pas. Mmh. Et donc, via là, il y a une sorte de petite communauté. J'ai rencontré beaucoup de gens. Après, mon souci, c'était intéressant, mais c'est des gens qui étaient vachement proactifs dans leur travail. Et en fait, à la fin, j'ai fait moi-même une tâche, comme si j'étais un employeur. Et je dis, voilà, je suis un étudiant en cinéma. Si vous voulez discuter, voici mon adresse email. Et j'ai eu énormément de rencontres via ça, en fait.
Donc, quand tu leur disais pas, je vais vous payer. C'était une tâche, mais pas pour les payer.
On est obligé, parce que pour coder la tâche, il faut mettre donc, c'est un centime minimum, parce que ça va pas beaucoup. Puis moi, j'ai demandé à mon école de mettre un budget pour... Mais après, les rencontres, non, c'était juste... Je leur disais, rencontrons-nous et discutons. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus... un côté plus intime, c'est quoi le quotidien.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Et on essayait parce que, en fait, oui, le film est en anglais, parce que c'est la langue d'Internet, et en tout cas d'Amazon. Donc c'est plus du globish, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas anglophones de base. Mm-hmm. Et pour les entretiens, ça en a tenu à un maximum, grâce à des amis, d'être dans la langue maternelle, parce que c'était dans le monde entier, et c'est un métier qui est partout.
D'accord, là en l'occurrence on voit des anglophones et des effectivement lusophones au
ouais,
Brésil.
Et oui, alors oui, dans le film final oui, parce que dans les entretiens il y avait
d'autres d'autres langues.
Ouais, bon.
Ok, on va faire une première pause musicale. On va écouter Monde nouveau de Feu Chatterton. Voilà, qui nous garde, qui nous maintient dans cette réflexion sur le monde nouveau et le numérique.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit. Serveur central. Bégayaient tous sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet de l'association Ad Hoc. Nous sommes en compagnie d'Éléonore Gilbert pour son film « Teint le paradis » ou « La balade d'Héloïse » et de Nathan Casté pour son film « En attendant les robots ». Alors, on va parler maintenant justement un petit peu de l'utilisation de la fiction. Vous avez tous les deux un peu évoqué de la manière dont vous avez joué avec cette frontière entre le documentaire et la fiction. Et on va peut-être commencer par toi, Nathan, puisque c'est vraiment quelque chose que tu utilises très, 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 très clairement. Ceci dit, petite question, pourquoi est-ce que tu ne le dis pas dès le début que c'est une fiction? Pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit quelque part?
Mais je le dis souvent, en fait. Moi, c'est...
Quand tu parles.
Non, mais oui, même avec... quand... Enfin, moi, j'ai dit que c'est
dans
un...
Dans le film, je veux dire, il n'y a pas écrit, je ne sais pas, tu me diras, c'est peut-être compliqué.
Ah
mais...
oui, ouais. Après, j'ai l'impression que c'est assez clair que... Non.
Mais moi, je dois avouer que c'est vraiment qu'à la fin...
Ouais.
Que je me suis dit, ah bah oui, quand même, oui, c'est évident. Enfin, à la fin, c'est évident quand même.
Oui, avec la caméra obscura,
la
c'est vrai que c'est là que je le...
Là, vraiment, ouais. c'est...
Bah, c'est ça, après, je...
Mais moi, j'ai cru beaucoup à Otto. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, mais non, moi, j'ai pas cru à Otto. Il a l'air trop naïf. Moi, moi j'y ai cru à fond.
Bah oui, c'est vrai que moi, c'était la caméra obscura, peut-être, qui était...
Le révélateur.
Mais il y avait d'autres, parce que... C'est vrai que pour moi, ça me semblait évident, mais maintenant que je réfléchis, c'est tous ces plans, on va dire, parce que le film est principalement composé d'images numériques, que ce soit les tâches qu'on voit et les webcams à travers le monde. Et il y a quand même une image de caméra classique qui, pour moi, révélait de manière claire que... Et puis, c'est filmé de manière assez, assez composée, en tout cas, les plans. Mais... Plus généralement, en fait, il y a eu beaucoup de... Enfin, la fiction est venue pour plein de raisons, mais la principale, parce que c'était pas une évidence, en fait. À un moment donné, j'avais rencontré... il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques Turqueurs à Bruxelles. Puis nous, on n'a pas les moyens d'aller beaucoup plus loin que les environs de Bruxelles. Donc, la seule solution, c'était de filmer quelqu'un à Bruxelles. Et en fait, ce qui s'est passé pendant l'écriture du film, c'est que Amazon, sans donner de raison, a fermé le site en Europe, excepté en Angleterre. Et donc là, c'était un peu ce qui a pris la décision finale de en fait, comment faire un film sur Amazon, si on ne peut même plus filmer. C'est aussi comment faire un film sur une grande société comme ça. Et donc, la porte de la fiction était...
C'est-à-dire qu'on ne peut plus être Turqueur aujourd'hui en Europe.
Alors, en fait, c'est qu'ils ne donnent jamais de raison. Moi, j'ai perdu mon compte, en fait. Et alors, je ne sais plus aujourd'hui, parce que ça change tous les mois. En fait, ils font un peu un calcul à chaque mois, mais ce mois-ci, on a reçu X boulot et on a besoin d'X travailleurs, et donc on adapte. Et on, mais ce qui est un peu une situation... c'est vécu dans le film, j'ai voulu me le mettre, parce que des fois, on investit du matériel pour gagner mieux. Et en fait... je crois qu'ils essaient d'éviter les Européens de l'Est, de l'Ouest, mais ils ont besoin, il y a beaucoup de tâches qui nécessitent la langue, en fait, ils ont besoin de locuteurs polonais, francophones, néerlandophones, donc ils ont besoin d'un minimum de masse de travail, donc ils sont un peu obligés quand même. Mais voilà, et donc...
Et pourquoi essayent-ils d'éviter les... gens d'Europe de l'Ouest.
Mais il y a beaucoup de tâches, des sondages, ou même pour apprendre, par exemple, une intelligence artificielle qui aurait besoin de traduction ou qui a besoin de comprendre une langue.
Oui, mais justement, pourquoi ils essaient d'éviter, tu disais?
Ah, mais parce qu'ils jouent quand même sur un flou de la loi du travail. Parce que c'est... Donc, je pense qu'ils préfèrent délocaliser. En ce moment, c'est beaucoup au Brésil, notamment. Voilà.
D'accord. Et du coup, tu disais, Otto... Donc ton Harpo, l'acteur, il est arrivé et tu lui avais donné un minimum d'informations.
Ouais, je lui ai un peu expliqué le sujet du film, mais j'ai pas voulu lui en dire trop. Je voulais vraiment qu'il découvre comme le spectateur, parce que je me doutais aussi que c'est un sujet assez méconnu comme boulot et je voulais pas faire un film trop didactique, mais je voulais que un minimum de clés, même si c'est pas ça au final qui m'intéresse le plus, mais un minimum de clés pour que les spectateurs comprennent. Et donc, par l'évolution de Otto, et ben je pense qu'on a le minimum et on comprend assez vite quoi. Quel est ce boulot qui est quand même très très particulier. Et alors, en fait, les autres raisons aussi, c'est pas que. Alors, moi, les Turqueurs du film, je les connais bien, mais je les connais que par webcam. Au final, on s'est jamais rencontrés en vrai. Et alors, je ne sais toujours pas l'expliquer, mais je trouvais que mon rapport avec eux n'aurait pas été juste si je les mettais au premier plan du film. même s'ils sont, ils sont tous consentants à faire ce film, je trouvais ça plus juste, et je ne sais pas l'expliquer, s'il y avait une sorte d'interface par le personnage de fiction entre eux et le spectateur ou la spectatrice, et que finalement, Otto a un peu le rôle... comme on découvre ces gens comme les amis, le cercle social de Otto, et un peu comme moi, je les ai découverts, en fait, et au final... Donc ça, c'était une des raisons quand même importantes. Et en fait aussi, j'ai eu beaucoup de témoignages, donc, et puis j'ai mon expérience à moi, et c'était une sorte d'éponge à plein de choses que j'ai entendues, une sorte d'amalgame de plein de témoignages qui étaient assez pratiques pour raconter cet enfermement vers ce travail. Donc voilà, il y avait vraiment une multitude de raisons, et puis ça m'intéressait formellement de faire des écritures comme ça.
D'accord. Du coup, jusqu'à quel... Jusqu'à où c'était écrit, justement ? Jusqu'à quel point tu as écrit son rôle ? Est-ce que tu t'es laissé guider par ses découvertes ?
Oui, oui, oui. Alors, c'était vraiment très, très peu écrit, en fait. C'était plus... Le tournage, c'était sous forme d'atelier. Donc, en fait... Et puis même, moi, je pense qu'on n'a pas... Dans le film, on ne sait pas trop pourquoi il fait ça. Et je pense qu'on ne cherche pas trop à comprendre. On accepte. Et en fait, c'était plus... l'évolution de travail qui m'intéressait. Et en fait, le tournage s'est fait chronologiquement. Et en fait, la journée était divisée en deux. Il y avait une partie qui était des entretiens, ça durait 4 heures, avec les Turqueurs, avec des discussions totalement libres. Et en fonction du décalage horaire, c'était des fois la nuit, des fois le matin, des fois à midi. Et puis le reste de la journée, comme un atelier, on avait des idées, et puis des choses que j'ai entendues. Par exemple, on me dit souvent que les meilleures tâches, celles qui paillent un peu plus, viennent de la Silicon Valley. Et en fait, les employés de la Silicon Valley se lèvent à 9h en Californie. Et donc, il faut se baser sur le rythme de vie californien. Et si on est en Europe, si on est en Asie, bah, c'est travailler la nuit. Donc, en fait, ce témoignage de s'enfermer, d'obscurcir les fenêtres. Pour pas... En fait, ça, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues. Et donc, c'était plus illustré des témoignages, en fait. Et donc, il n'y avait pas vraiment de scénario et de personnages, en fait.
D'accord.
Je peux poser une question ?
Bien sûr.
En fait, pour comprendre le dispositif, les personnes avec qui discute Otto, ce sont des personnes qui ont reçu une tâche que tu as créée, qui est de discuter ?
Non. Ah. Ça, c'était juste pour rencontrer des gens. Comme Amazon, il n'y a pas de liste d'emploi, il n'y a pas de bureau. Enfin, c'est comment savoir, comment rencontrer d'autres travailleuses ou travailleurs ? J'ai juste dit, j'ai un peu court-circuit, j'ai dit, voilà, je suis étudiant et j'aimerais bien vous rencontrer. Si ça vous dit, mon adresse email. Mais ça, j'étais obligé de le passer comme une tâche parce que le site consiste juste à un tableau d'affichage de boulot. Et donc ça, c'était juste le moyen de rentrer en contact et qu'on échange nos adresses email et qu'on organise des rencontres.
D'accord. Après, les rencontres qui sont filmées, qui sont à travers les écrans, c'est des gens qui prennent le temps, qui ont envie de ce temps de rencontre, en fait. Et qui savent qu'ils sont dans un film.
Oui.
Ok, d'accord.
Ah, c'est des gens... que j'ai rencontré, c'est ceux avec qui, en fait, parce que j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes et c'est ceux qui voulaient aller le plus loin dans le film, et aussi que j'ai choisi pour faire un panel de personnages un peu différents, même géographiquement, je pense qu'ils représentent assez bien les gens qui travaillent sur ce site. Ouais.
Ils ont rencontré Otto, est-ce qu'ils t'ont rencontré toi, visuellement ?
Oui, mais alors moi, ils me connaissaient plutôt bien, parce qu'on travaillait souvent côte à côte, et puis après... Quand j'ai décidé de faire un film, je faisais des entretiens avec eux. Et alors Harpo, non, ils l'ont rencontré peut-être 5 minutes avant pour que je le présente. J'ai dit, voilà, j'ai un ami comédien. Et après, la rencontre se sont fait filmer pendant le tournage.
Donc, les discussions, par exemple, qu'ils avaient avec lui, où ils essayent vraiment de le sortir de son enfermement, ils savaient que c'était un comédien.
Oui.
Donc en fait, il savait qu'il n'était pas comme où il se laissait prendre au final.
Bah, c'est un peu la question. Alors j'ai eu des réponses après quand je leur ai montré le film et qu'on a discuté. Alors il y en a qui se laissaient prendre parce qu'ils disent oui, mais au final, on a face à nous une webcam. Donc on sait qu'il y a Alors en tournage, on était 3. Hein, c'est un tout petit tournage, mais ça, c'était des heures et on se voyait tous les jours. Donc, et puis il y en a qui parlaient à moi aussi parce qu'ils savaient que j'avais. Donc ils me disaient. Et puis en fait, il y en a. Il y en a un, en fait, il m'a envoyé une lettre pour me dire que, en fait, il avait presque écrit quelque chose pour lui-même et c'était vraiment très écrit. Il a écrit un texte, enfin pas un texte, il voulait dire un message qui était Phil, en fait, qui voulait dire sort, et il parlait à lui, et c'était, enfin voilà, c'était quelque chose qui voulait passer, et moi je pensais que c'était presque, c'était, enfin, c'était étonnant parce qu'ils sont pas comédiens et ils ont,
ouais. Non, c'est très beau d'ailleurs, hein, parce que finalement se créer des liens entre ces personnes qui se connaissent pas et qui se voient que par webcam, des liens très intéressants en fait. Ouais. Dès qu'on peut recréer du lien, finalement le lien se recrée et les relations se recréent.
Et ça, c'était la surprise du tournage dans ce qui était inattendu, c'est que je m'attendais pas à ce que tous, sans exception, soient en empathie, en solidarité avec Otto. Parce que, par exemple, le prêtre, donc Glenn, qui vit en Ohio et qui est un personnage très, très particulier, je l'avais un peu choisi parce qu'en fait, c'est un des seuls, peut-être le seul que j'ai rencontré qui gagne relativement sa vie sur ce site parce qu'il a 6 écrans devant lui. Il a développé une méthode pour optimiser son travail sur ce site. Et puis, il boursicote, avec l'argent, il investit dans Wall Street. Et puis, le dimanche, il fait son prêt. Donc, c'est vraiment un personnage. Et je l'avais un peu pris en me disant, est-ce qu'il a fait? Il va radicaliser Otto en lui disant, bon, allez, c'est sympa, je t'ai vu un peu comment travailler, maintenant je vais t'expliquer comment faire les choses, et c'est moins marrant, mais tu vas gagner plus. Ce qu'il a fait. Mm-hmm. Donc, j'étais content, entre guillemets. Et en fait, c'était étonnamment le premier à lui dire, mais en fait, t'as l'air jeune, puisque tu pourrais pas faire autre chose, sors. Mm. Donc, et ça, c'était pour le coup vraiment inattendu. Donc, le film un peu a changé parce qu'ils ont tous eu ça.
Mm-hmm. Et donc, finalement, ils se sont laissés prendre un peu, peut-être aussi, par l'image que renvoyait Otto, en oubliant presque que c'était un acteur, quoi.
Ouais, je pense.
Ok, ouais, c'est intéressant.
Mais parce que, après, c'était aussi que c'était des discussions régulières sur plusieurs heures. Et je pense que c'est pas des discussions non plus, c'est on travaille côte à côte et il y a des moments de silence. Et donc, c'était aussi des réflexions générales sur le boulot.
Et c'était sur combien de temps? Vous avez tourné sur combien de temps?
Le 3 semaines, tous les jours. Donc, mais on avait pris peu de personnes, enfin peu de turqueurs, donc c'était des gens qu'on voyait très régulièrement.
Mmh. D'accord. Il y avait aussi une chose qui m'a interrogée. Dans le générique, tu as noté des noms de figurants Street View et de codeurs tâches.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux expliquer?
Mais en fait, alors, bon, moi j'étais dans une école, donc j'ai pas trop fait gaffe aux droits d'auteur, parce qu'on voit le logo Amazon presque une fois par plan. Mais, par exemple, il y a des tâches où, là, par exemple, celle de Google Street View, c'est Google qui se protège énormément et qui t'empêche d'utiliser leur image. Et donc, comme je voulais absolument mettre cette tâche, en fait, c'est une tâche qui un peu m'a donné envie de faire le film, c'est celle où, en fait, ils ont photographié toutes les rues du monde, mais ils devaient flouter les passants parce que c'est la loi. Mmh. Et donc, ça, c'est une tâche qui a été faite par des turqueurs, notamment. Et donc, on l'a refait nous-mêmes. En fait, on a refait une fausse Google Street View, on s'est baladé dans les rues de Bruxelles. Et alors, il y en a certains où les visages passants étaient reconnaissants, donc j'en ai fait des figurants pour avoir le droit à l'image. Et alors, pour les codeurs, c'est parce que... Donc en fait, le site, je ne peux pas dire c'est des visages, c'est des millions de types de boulot numérique, il y a de tout, et en fait, ça change constamment, donc... Quand j'y vais, je vois plein de choses. Alors, il y en a des choses qui sont pas très passionnantes. Il y a beaucoup de tâches où il faut recopier des tickets de caisse ou des sondages. Mais des fois, il y a des trucs très interpellants, notamment des tâches médicales. Et des tâches que j'avais vues, mais en fait, si elles sont passées, elles sont passées. Donc, il y en a qu'on voulait refaire vraiment pour le film. Et donc, j'ai eu de l'aide de codeurs et on les a refaites parce qu'on voulait les mettre dans le film.
D'accord.
Mais à part, c'est tous des choses que j'ai quand même qui existent. Des tâches qui ont été faites sur le site.
Mmh. Alors, on va écouter un deuxième extrait. Donc, c'est Otto face à une tâche où il doit reconnaître si on voit des êtres humains à l'image.
Oui.
Donc, on entend la machine qui lui demande qu'est-ce qu'on voit. Ou non, elle lui dit d'ailleurs, passe à la suivante, une fois qu'il a répondu. Il voit donc une photo et il dit si on voit un humain, human, ou si on voit pas un humain, donc non-human, et donc il dit ce que c'est. Et il devient fou avec la machine et on l'écoute.
Human.
Next, please.
Not human, tree.
Next, please.
Not human, house.
Next, please.
Human.
Next, please. Please repeat the word.
Not human, garbage.
Please repeat the word.
Not human, trash.
Please repeat the word.
Not human trash. Not human trash. Not human trash. Not human trash. Not human house. Not human car. Not human garbage. Not human black garbage. Not human. Not human garbage is not human door. Not human trash. 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 Fuck you!
Please repeat the word.
Not human garbage.
Please repeat the word.
Human.
Next, please.
Human.
Next, please.
Human.
Next, please.
Human.
Next, please.
Human.
Donc Nathan, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet extrait de ton film En attendant les robots qu'on vient d'écouter? Dans notre émission, on a déjà traité le sujet sur Radio Libertaire. On t'écoute.
Oui, alors cette tâche, elle est un peu à part parce que c'est la seule que je filme avec une caméra. Parce que le reste, c'est les tâches où on est dans les interfaces et on voit le site et les vraies tâches. Et celle-là, c'est la plus mise en scène. Enfin, c'est des vraies tâches, en fait. C'est assez fréquente ce genre de tâches, c'est des tâches de labellisation. Et il faut apprendre aux IA qu'est-ce qu'une table, qu'est-ce qu'une chaise, qu'est-ce qu'un micro. Et aussi qu'il y a besoin de la voix, parce qu'ils veulent comprendre la voix humaine. Il faut qu'un million de personnes disent le mot chaise pour qu'ils reconnaissent le mot chaise. Mmh. Et donc ça, c'est des tâches qui a... Parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des tâches qui utilisent un peu les cinq sens, qui utilisent la voix, l'audition, la vue. Enfin, c'est pas juste clavier ordinateur. Et donc celle-là, je voulais absolument la refaire. Et donc, et aussi, elle avait un double sens, donc c'était pour montrer ça, tout simplement. Et aussi, en fait, c'est parce que ça, c'est un témoignage que j'ai beaucoup eu, c'est que souvent, on fait ces tâches répétitives 3-4 heures, et en fait, il faut finir une série, et s'il y a un bug, on n'est pas payé. Mmh. Donc, il faut trouver à chaque fois une astuce pour ne finir la tâche quoi qu'il arrive. Donc, ce que j'ai dit à Otto, je fais quoi qu'il arrive, tu finis cette tâche et s'il y a un bug, tu trouves une solution pour le... Ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui disent n'importe quoi, en fait, pour juste finir la tâche et que... Bon, ça, c'est pas très grave, mais que les IA sont souvent mal entraînés. Mais...
Mm-hmm. Et du coup, en fait, c'est pas une tâche qui existait, c'est une tâche que vous avez recréée.
Si, elle existe, mais on a dû la... Enfin, elle existe sous d'autres formes, mais j'ai dû la refaire parce que... En fait, on doit se connecter. Si ce jour du tournage, elle n'est pas là sur le site. Mm. Donc, c'est là, c'est celle que, justement, quand je disais qu'on avait engagé des codeurs, c'est ça, notamment.
D'accord. Et donc, du coup, quand il y a le bug et que le système ne reconnaît pas ce que dit Otto, et il dit trash, qui veut dire
poubelle,
mais le système ne reconnaît pas, c'est quelque chose qui s'est passé parce que vraiment le système ne reconnaissait pas ou c'est vous l'aviez codé, ça?
Ben, je crois que j'avais fait en sorte qu'il y ait, à un moment donné, un bug. Et mais en fait, c'était un peu les parties plus fictionnalisées du tournage. C'était plus ce genre de choses où, en fait, on faisait des sortes de jeux ou de scènes un peu d'improvisation en disant, voilà, maintenant tu vas travailler, on va te filmer travailler. Et là, je lui avais dit, notamment, tu dois trouver une solution pour finir cette scène, ce boulot. Et donc, voilà, il y a eu un problème. Et il a eu cette idée qui est quand même assez géniale de dire humain pour décrire une poubelle.
Ouais. Ouais. Et du coup, il savait pas en fait, ce qu'il allait y avoir comme.
Non, voilà, non.
C'est de l'improvisation. Non, c'est excellent. C'est bien d'ailleurs dans vos deux films, Léonore et toi, il y a beaucoup d'humour, donc c'est vraiment quelque chose qui est sympathique toujours. Hein. Le documentaire n'est pas que des histoires sinistres. Voilà.
Austère.
Austère. Donc du coup, on va peut-être passer un petit peu à Éléonore et voir un petit peu toi de ton côté. Voilà, comment tu nous as... T'as commencé à nous expliquer un petit peu comment tu avais réfléchi, pourquoi tu t'étais lancée dans l'écriture aussi, dans l'invention d'un personnage. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment finalement de l'écriture ce personnage s'est imposé?
Alors je ne me rappelle pas très très bien, mais disons que j'ai cru que à un moment donné, comme moi je voulais faire un documentaire, mais que j'avais envie de parler de ce, ces espèces de micro, de transformations du monde qui sont tellement liées aussi à des expériences du quotidien qu'elles sont pas tellement nommées finalement. Je voulais trouver quelqu'un qui peut-être ne dise pas la même chose que moi, mais soit cette personne. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je travaillais, je faisais un atelier dans un hôpital psychiatrique et j'espérais rencontrer des gens qui aient une sorte de, je sais pas, de phobie par exemple, de phobie ou qui puisse être traité de réactionnaire, je sais pas, mais bon bref, c'est toujours compliqué de savoir comment on va nommer quelqu'un qui refuse une certaine idée du progrès. Mmh. Et je pensais que je pouvais rencontrer des personnes qui auraient une inadéquation très forte, voire des angoisses. Et en fait, on m'a dit que... Enfin, en tout cas, les personnes avec qui j'ai discuté m'ont dit que c'était pas du tout un symptôme qu'ils trouvaient parmi les patients, qu'il y avait plutôt des patients hyper addicts.
Ah oui.
Donc, c'était pas du tout à l'endroit où
l'inverse.
Je pensais. Ouais. Donc, bon, c'était intéressant aussi, mais c'était pas là que ça se passait. Alors que j'aimais bien l'idée de... Puis, c'était vraiment des rencontres intéressantes dans cet hôpital psychiatrique. Il y a plein de gens qui sont là pour des niveaux... Enfin, c'est un hôpital où il y a des gens qui sont là parfois pour une semaine, d'autres qui font des longs séjours. Il y a plein de rapports au monde différents qui s'expriment. Donc, j'avais assez envie au début que mon film puisse être dans ces rencontres-là. Puis j'ai vu que je me trompais et que, en fait, ce personnage, c'était un peu moi quand même qui devait le porter, quitte à l'écrire comme une fiction et du coup, créer vraiment un personnage de A à Z. Et j'avais imaginé une actrice, mais en fait, c'était faux. C'était faux, c'était plus une adresse à soi, en fait, une mm-hmm. réflexion intérieure, quelque chose mm-hmm. comme ça. Donc, je me suis dit, je vais rester là-dessus, et ça va quand même être un personnage voix, mais on n'a pas besoin de l'incarner physiquement. Et avec cette balade, en fait, j'ai vraiment voulu filmer les gens, non pas contre la voix, mais avec la voix. Et que finalement, cette Héloïse, ça puisse être même le monsieur qui est là, que je filme dans le train... Ou un bout de la petite fille, ou un bout... En fait, c'est quelque part, c'est des pensées qui sont partageables. C'est pas des pensées qui sont contre. C'est plutôt de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ces changements qui viennent creuser des choses en fait très intimes et très profondes sans en avoir l'air, et qui nous concernent tous. Et on a un peu les doigts là-dedans, on n'a pas forcément envie de les avoir, mais de fait, ça marche comme ça. Donc j'avais envie que ce soit pas du tout un film qui soit une personne contre d'autres personnes, mais qui vienne proposer finalement une pensée intérieure... Aux voyageurs. Et en fait, il a été quand même... C'est marrant, toi, t'as dit que ton film, il est né pendant le confinement.
Ouais.
Moi aussi. Et en fait, je voulais filmer. Je pensais que j'allais avoir beaucoup plus d'interactions avec le réel. Ce que j'aime bien aussi, quand on ne sait pas ce qui va se passer. Mm-hmm. Mais là, en filmant dans les trains, tout le monde était masqué. Mm. Donc, ma rencontre consistait beaucoup à demander aux gens d'enlever leur masque. Au début, ils le baissaient. Et je leur disais, non, il faut l'enlever. Donc, c'était un gros geste. Mm-hmm. Et du coup, j'avais plus des portraits de personnes seules. Là où j'aurais aimé... Je pensais au début avoir plutôt des gens en groupe, des gens qui échangent. Et en fait, là, c'est devenu beaucoup plus pictural, en fait. Ça a donné quelque chose de plus d'ordre de l'intériorité, je dirais, au film. Là où moi, je pensais que le réel allait venir percuter ça. Mm-hmm. Et j'ai utilisé pas mal d'images de repérage qui étaient censées être que des repérages. Mais le temps que les gens... On ne savait pas quand est-ce qu'on enlèverait les masques. Mm-hmm. Et j'avais pas envie de poireauter, je ne sais pas combien de temps avant de faire mon film. Donc, à Choisi le roi et Atteint le paradis, c'est vraiment des images que j'ai faites sans penser que ça serait celle du film, mais pour connaître les lieux. Et finalement, c'est devenu les images du film, mm-hmm. parce que ce film, c'était sa temporalité. C'était un film qui était assez spontané, j'avais pas envie de m'éterniser pour le faire. Et en fait, j'aimais bien l'idée aussi que bah, finalement, il se modélisait avec les contraintes rencontrées.
Mm-hmm. Et du coup, moi, je m'interroge quand même sur pourquoi passer par cette Héloïse, en fait. Parce qu'on a vraiment l'impression de t'entendre, toi, en fait. Mais comme je ne te connais pas assez du tout intimement, du coup, est-ce que ça t'a permis de libérer une parole que tu ne t'autorisais pas ? Enfin, voilà, à quel point de vue ça t'a servi ?
Mais, ça m'a servi parce que, pour dire les choses de façon un peu prosaïque, moi, des moments, je la trouve un peu con dans sa façon de dire les choses. Et en même temps, c'est comme ça que j'ai envie que ce soit dit. Donc... Moi, quand je parle, peut-être j'ai pas envie que ce soit un peu con. Et là, c'était comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est Héloïse. Après, le prénom ressemble un peu au mien. Peut-être que je me suis pas tellement éloignée. Mais je voulais que ce soit une actrice qui dise la voix, vraiment. Ça, c'était très important. Et je pensais que je lâcherais jamais le truc. Et finalement, quand je faisais le montage avec le monteur, la maquette, c'était avec ma voix. Et puis, c'était très dur de trouver le bon ton.
il fallait vraiment être sur un truc assez fin parce qu'il pouvait vite y avoir quelque chose d'affirmatif un peu pénible. Et il m'a dit, écoute, tu vas demander à quelqu'un de refaire ta voix, c'est pas super. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, rencontrer quelqu'un qui est acteur, c'est intéressant si on lui donne sa marge de manœuvre. Et là, en fait, on était arrivé à un endroit du montage où j'avais trouvé une façon de formuler cette voix, où j'allais peut-être pas réussir à m'ouvrir à quelqu'un qui le dirait autrement. Donc j'ai assumé de faire finalement, de porter cette voix. Et voilà, et finalement, je me suis dit, la balade d'Héloïse, est-ce que c'est encore ça? Enfin, le titre à rallonge, c'est quand on hésite un peu sur le titre. Au début, c'était Héloïse dépossédée, mais je trouvais ça un petit peu pompeux. Et donc c'est devenu Teint le paradis ou la balade d'Héloïse, c'est un peu long. Mais j'aimais bien ce mot paradis dans le titre, quoi. Donc voilà, c'est à peine de la fiction, mais parfois c'est ce qui donne l'espace, en fait, qu'on se donne pas quand on s'engage depuis sa pièce d'identité, je dirais. Voilà. Mais après, j'assume complètement le propos, évidemment.
Moi, j'ai une question parce que j'aime vraiment beaucoup les scènes avec les portraits, hein, presque des neutres de gens, mais... est-ce qu'on voit des masques dans le film? Parce que, ça, en fait, je n'avais pas compris que c'était pendant le confinement. Et en fait, il y a un geste d'enlever le masque, comme tu dis. Mais on ne le sait pas. C'était une volonté de ne pas mettre de pas situer le film pendant le confinement
En fait, à l'époque, c'était vraiment le début, hein, mon tournage. Ouais. C'était le tout début. J'ai commencé par ne pas faire le tournage, plutôt. Parce que les gares étaient fermées. Et en fait... À l'image, voir un masque, ça faisait un effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, ça faisait un effet de truc de science-fiction de dingue. Et après, maintenant qu'on voit un masque, c'est un truc assez banal, on sait très bien à quoi ça fait référence, et ça ne prend pas tellement de place dans l'imaginaire. C'est juste, bon, ben voilà, il y a le confinement, machin, ah ben il doit avoir le Covid, on s'en fiche un peu. Mais au tout début, c'était des images très fortes, très science-fiction, et moi, je ne savais pas du coup dans quoi je m'engageais en ayant des images comme ça. Il y a deux personnes qui ont des masques, ce sont des contrôleurs, parce que eux, je n'ai pas osé leur demander d'enlever leur masque. Donc on les voit, il y en a deux qu'on voit.
Je ne l'ai pas remarqué.
En fait, on ne les remarque pas d'autant c'est plus ça. Que maintenant, on a vu plein de masques.
Ouais.
Je pense que avant c'était des contrôleurs masqués, franchement, c'est hyper chelou.
Ouais.
Mais maintenant, non, ça ne l'est pas. Donc, c'est vrai que je n'avais pas de propos à dire. Et j'ai fait, tout à l'heure, tu as présenté les films que j'ai fait. J'ai fait un petit film que tu n'as pas dit, qui s'appelle Mars côté Nord, qui est un film sur le confinement. J'avais besoin d'exprimer quelque chose, de garder quelque chose de cette expérience. Et d'ailleurs, c'est parce que je ne pouvais pas filmer Teint le paradis que j'ai fait cet autre film qui s'appelle Mars côté Nord, où j'ai utilisé en fait la situation présente. Mais Teint le paradis, j'étais trop déroutée par la rencontre entre cette situation de confinement et le film. Et en plus de ça, j'ai quand même des rushs très éparpillés que j'avais filmés avant, un peu n'importe comment. Puis après, j'ai repris ma petite caméra. Donc, il n'avait pas d'identité en lien avec le Covid. C'est juste qu'il a été quand même façonné de fait par ça.
Est-ce que du coup les personnes que tu filmes sont des acteurs? Je crois qu'il y en a certaines. À un moment, tu remercies certains passagers, si j'ai pas de bêtises. Ou est-ce que c'est des personnes de passage que tu as rencontrées par hasard?
Alors c'est vraiment vraiment à l'essentiel des personnes de passage. Hein. Pas du tout des acteurs. Des personnes. Tout le monde a toujours dit oui quand je leur ai demandé d'enlever leur masque. C'était étonnant. Je leur racontais le film un petit peu. Il y avait quelque chose de très facile. Et puis, à un moment donné, juste, je voulais aller à Montastruc. Parce que moi, le tournage était quand même mélangé à ma vie quotidienne. Et j'étais à Toulouse, je devais aller je ne sais pas où. Et puis, je voulais aller à Montastruc, mais je loupais la correspondance. C'était compliqué. Et j'ai demandé à des amis de Toulouse de venir me chercher à Toulouse et de m'amener à Montastruc, qui est à côté de Toulouse, d'où je reprendrai un train pour aller plus au sud de la France. Et c'est Farok, Dagmara et Maya, une famille. Et ils sont devenus, il n'y avait personne à Montastruc, et ils sont devenus les gens qui poireautaient à Montastruc. Donc c'est pour ça que je les ai remerciés. Et puis une autre personne il y a quelqu'un qui danse à un moment donné, la gare s'appelle Salle Bertrand, je ne l'ai pas mise dans le film parce que Salle Bertrand n'avait pas de lien de résonance avec le propos. Et ça c'est un ami, en fait il y avait cet espace très joli,
ah oui, c'est fou,
cette espèce de verrière, et puis je lui disais, vas-y mets-toi là, je te filme, puis je le filmais, puis... Il trouvait un peu chiant parce qu'il se passait rien. J'attendais qu'il y ait un train qui arrive, le train n'arrivait pas. Puis à un moment donné, sans que je lui demande rien, il s'est mis à danser. Et là, c'est devenu intéressant. Donc voilà, c'est les deux petits moments où les gens en fait qui m'accompagnaient, mais parce que Moi, j'ai tendance à mélanger... Le tournage existe, mais j'ai un peu l'impression d'être comme une tortue où j'ai souvent des gros sacs avec caméra à pied dedans. Et en fait, ça c'est souvent mélangé à des voyages pour d'autres choses de l'existence. Ce qui était le cas, là. J'étais en Italie pour autre chose. Et puis, comme je savais que j'allais me retrouver au milieu des trains, bon, bah voilà, j'avais filmé. Donc, ça fait des petites choses comme ça.
Mm-hmm. Un petit peu de ta vie aussi qui rentre dans le film.
Oui, sur un mode décor, ouais.
Ok. Alors on va refaire une petite pause musicale. Alors, cette idée de musique est venue d'une... Elle m'a été soufflée par une collègue, puisque dans La Nuit américaine, Truffaut dit « Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort, les films avancent comme des trains, tu comprends, comme des trains dans la nuit. » Et du coup, c'était l'occasion d'écouter Le Grand Choral, écrit par Georges Delerue, pour le film La Nuit américaine de Truffaut. C'est parti. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet de l'association Adoc. Nous sommes en compagnie d'Éléonore Gilbert pour son film « Tint le paradis ou la balade d'Héloïse » et de Nathan Casté pour son film « En attendant les robots ». Donc, chers invités, Éléonore et Nathan, vos deux films sont très différents dans leur forme. « Tint le paradis » est à la fois tout en mouvement, puisqu'on est sans cesse sur les rails, mais il est très lent, il a un rythme très, très calme, alors que En attendant les robots est très statique, il est confiné et il est beaucoup plus rythmé. Donc on va parler un petit peu de ça, de ce travail que vous avez mené sur le rythme, sur l'image et sur le son. Voilà, le côté un peu plus formel. Éléonore, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire un road movie ? Même si on peut road movie, c'est la route,
un trail movie. Ben c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait c'était quand même compliqué d'avoir une voix qui pense des trucs sur le monde de maintenant. C'est un peu bizarre, quoi. C'est pas un film, alors comment ça peut devenir un film? Et donc il y avait une espèce de logique de elle saute dans le train et puis à la fin elle dit bah voilà, j'avais pas envie de donner mon nom, mon âge et mon sexe à ce dieu là même si je sais que de toute façon bah il y a un moment, on y viendra bien, mais pour le moment j'ai pris des des TER en quelque sorte. C'est pas une publicité pour les TER, parce que, enfin, ça pourrait. Mais je veux dire, il y a cette idée que en fait, elle a tenté d'être une dernière fois sur les bords, mm-hmm. parce que en fait, bah oui, je vais finir par le donner mon nom, mon âge et mon sexe à la machine qui veut tout savoir. Mais là, hop, je me fais un petit voyage un peu sur les bords. Alors, je vais dans des bleds, dans des endroits où c'est pas les grosses lignes, c'est pas toute cette grosse machinerie de surveillance et de flux. Donc, il y avait une espèce de logique finalement à faire du train, une espèce de possibilité filmique, je dirais. Mais évidemment que c'est un peu artificiel. Et en même temps, bon, moi, ça correspond, comme je disais tout à l'heure, à quand même mon mode de vie d'être souvent dans le train. Mais il y a des moments où on descend du train aussi. À un moment donné, il y a une histoire de promenade au bord de la mer. Mm-hmm. C'est un peu l'histoire d'amour du film. Mm-hmm. Hein. C'est un film assez classique avec une histoire d'amour déçue. Et du coup, à ce moment-là, j'utilise plutôt des images que j'ai piochées de ci, de là, d'archives au bord de la mer. Et puis, voilà, ça vient raconter, tout d'un coup, ça vient s'attarder sur cette question d'évaluer ce qu'on vit. Et comment, quand tu évalues ce que tu vis, bah, en fait, tu le dévalues peut-être. Tu ne permets pas peut-être à la magie de l'incertitude. Donc, il y a des moments comme ça, je m'arrête aussi à Choisir le roi, l'histoire de la pharmacie. Donc c'est comme si on était en fait dans les trains, puis de temps en temps on descend, on vit un petit truc dehors et hop on remonte. À un moment il y a même une scène, j'aurais aimé peut-être mettre plus de scènes comme ça d'ailleurs, qui n'a pas de sens forcément. C'est à un moment donné, c'est comme si le train était un peu arrêté et puis il y a des gens qui ont des problèmes avec une voiture qui visiblement ne marche pas, et puis un bébé qui braille. C'est trois hommes, il y en a un qui tient le bébé, l'autre qui pousse la voiture. Enfin, ils essayent juste de s'entraider, de faire passer un truc, et c'est tout. Pour moi, c'est aussi des moments d'arrêt, de respiration et de vie qui pulsent sans être forcément toujours tenus. Bien que je porte et aime mon film, j'aurais aimé parfois permettre peut-être que ça tombe un peu plus dans des moments comme ça. Délité, je dirais. Mm-hmm. La voix, en fait, la voix était à la base hyper pleine de mots. En rencontrant l'image, il y a plein de mots qui sont tombés. Et je pense que j'aurais pu en faire tomber encore un petit peu plus. Notamment sur l'histoire d'amour, où je dis que c'est parce qu'on ne parle pas que des choses se passent. Mais moi-même, en l'énonçant, des moments, je trouve que je parle trop, même à l'intérieur du film. Mais ça, c'est très long, hein, ce processus de comprendre, en fait, à un moment donné, qu'est-ce qui est suffisant, qu'est-ce qui l'est pas. J'ai enlevé énormément de textes.
Ah oui.
Bah oui, parce qu'en fait, l'image, c'est tellement du sens que si tu veux que l'image parle, il faut pas que le texte y soit partout. Et j'ai beaucoup dégraissé. Et c'est vrai que sur cette histoire d'amour, à chaque fois, j'aimerais retourner sur la table de montage et enlever une phrase, hop. Mais d'ailleurs, je l'ai fait au dernier moment, mais pas assez. Voilà.
Donc, je disais que le rythme était très calme. Comment est-ce que tu as travaillé ça, cette histoire de rythme ?
Bah moi, j'ai pas l'impression qu'il soit si calme, mais c'est parce que peut-être, je sais pas, peut-être que c'est mon point de vue. Je trouve que pour digérer quand même un propos, il faut quand même avoir une disponibilité. Je veux dire, pour écouter, quand je dis pour digérer un propos, c'est pas tant digérer un propos, mais je trouve que les voix off, souvent, moi, j'arrive pas à écouter les voix off dans un film. Alors peut-être c'est mon expérience de spectatrice qui fait que je fais un film comme ça. C'est que moi, j'ai remarqué, j'ai beaucoup de mal à prendre toutes les informations d'un film. Donc peut-être c'est pour ça qu'il a ce rythme calme, parce que j'ai envie que ce qui se dise puisse être entendu. Je crois que c'est ça. Hein. Mmh. Et après, ça vient de ce que je racontais tout à l'heure. J'ai quand même des gens qui sont tous masqués à ce moment-là. Il n'y a pas des gens... Parfois, dans les trains, il se passe des trucs de dingue. Là, tout le monde était quand même très sage. J'ai filmé pendant le moment de sagesse et d'obéissance. Donc forcément, mon film est devenu beaucoup plus calme que ce que j'aurais cru.
Tu as fait un énorme travail au son. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce qu'il y a la voix, mais il y a tout ce qui l'accompagne. Il y a énormément de sons de train, mais plein de sons autres, en fait. Comment est-ce que tu as travaillé ça ?
Ben d'abord, j'avais beaucoup... J'ai fait beaucoup de prises de sons de train. J'aimerais bien un jour prendre le temps de faire une pièce sonore de train, parce qu'il y a des harmoniques, c'est hyper beau. Il y a des sons qui s'entremêlent avec des basses et des aigus. Enfin, ça, je crois que j'ai adoré écouter les trains. Après, je voulais un peu enregistrer les gens, mais là, pareil, c'était pas vraiment le moment. Et je me souviens pas très très bien, mais je sais que quand je suis allée finaliser le son avec le monteur mixeur son. J'oublie toujours son nom, je le connais très bien. Il est super, il travaille à Sono Sapiens, à Montreuil. Bon. Et,
je peux pas t'aider.
Ouais, non, mais parce qu'il a un prénom qui est comme un nom de famille, alors ça me fait des confusions dans la tête. Mais bon, bref. Avec lui, on a vraiment bien travaillé parce que, à un moment donné, il me faisait des propositions assez originales. Moi, je voulais utiliser au maximum les sons que j'avais récoltés. Donc, on a fait ça. Et puis, quand on est sur la fin, juste avant d'arriver à Teint le Paradis, le train commence à ralentir. Ça fait des trucs comme ça. Et lui, il a rajouté une espèce de quelqu'un qui joue quelque chose en le mettant au ralenti, une sorte de flûte. Et en fait, c'était super. Et ça ressemble à du bruit de train. Et en fait, c'est du bruit de train. Enfin, je veux dire par là... il y a ce que nous on ressent, enfin c'est vrai qu'avec le son colle beaucoup plus au réel que l'image, mais voilà, il faisait des propositions qui venaient complètement parfois d'ailleurs et qui pourtant collaient complètement avec des sensations qu'on peut avoir en fait quand nos oreilles, par exemple tout à l'heure j'étais dans le métro et je regardais le sol, il y avait un grincement qui en sortait qui était absolument fou, mais on pouvait aussi complètement l'oublier. Mélanger aux autres sons. Et là, c'est comme si on faisait ressortir des choses qui sont de l'ordre du sensitif.
Parce que là, le son, il a été... Il n'y a presque aucun son in.
Si.
Il y en a un peu dans les trains qui passent.
Si, il y en a plein de fois, en fait.
Plein de fois ?
Ouais. Mm. Plein de fois, dans les trains, il y a du son in. Si, si. Mais il y a des couches qui sont rajoutées, mais plein de fois, il y a du son in.
D'accord.
Si, si. Mais et juste, même si ce n'est pas du son, c'est de l'image, pour dire, en fait, quand on est dans un train, parfois, on tourne la tête et on isole une scène. Et elle est nette. Et moi, j'ai essayé de faire ça au tournage. C'était très dur. Alors, je l'ai gardé de temps en temps en faisant pivoter la caméra, puis revenir. Et en fait, avec le monteur, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien insérer des images qui n'avaient rien à voir et que ça faisait le même effet. Donc, des moments dans le montage, il y a des images. C'est en train de filmer juste un truc normal de morceau de train. Et puis, hop, il y a une image de quelqu'un dans une tente, une image de... Et en fait, c'est pas du tout logique. Mais ça marche.
Un chien qui regarde.
Un chien qui regarde, ouais, avec des grandes culottes gigantesques. Ça, c'est une image que j'ai trouvée magnifique. J'étais vraiment heureuse de pouvoir l'utiliser. Et en fait, ça, c'est complètement artificiel, mais ça reproduit quand même cette espèce de sensation quand on est dans le train où on va isoler des petites scénettes qui passent très vite, mais que notre mémoire fixe et que j'ai vu et que je n'ai pas pu filmer. Par exemple, à un moment donné, il y avait un homme et sa petite fille, un grand-père et sa petite fille, et puis un chien qui avait une espèce de truc anti-puce. C'était hyper beau. Mais hop, c'était passé. Et ça, en fait, tu peux pas les avoir comme ça, mais tu peux, avec le montage, t'autoriser des choses artificielles qui, dans ce mouvement perpétuel du train, finissent par faire une matière cohérente, en fait.
Et justement, dans ce que tu as utilisé, il y a pas mal d'images d'archives. Là, tu l'as évoqué plusieurs fois. Donc, c'est des archives que tu es allé chercher dans des stocks d'archives, si j'ai bien compris, de la région centre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu et pourquoi avoir décidé d'utiliser, quand je dis archives, je veux dire des choses qui sont un peu plus vieilles, quoi. Des choses un peu du Super 8. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais voilà, comment tu as travaillé, pourquoi déjà et comment tu as travaillé ça?
En fait, moi, j'ai pas autour de moi, dans ma famille, personne n'a de Super 8 ou d'Hachi 8 ou de choses comme ça. Et en fait, comme j'avais commencé à filmer avec un appareil photo un peu pourri, j'aimais bien l'idée que j'étendais tous les supports un peu plus loin. Et l'INA, c'est très compliqué d'avoir accès à leurs archives, alors que Région Centre, ils sont vraiment sympathiques, en fait. Et ils m'ont permis de... Sur leur site, on peut regarder. Ils m'ont prêté plein d'images. J'ai regardé celles qui allaient bien avec le film. Et ensuite, on a acheté pour pas grand-chose les images nécessaires. Et c'était très délicat pour moi d'utiliser des archives. J'avais très, très peur de toute la dimension nostalgique qui peut s'en sortir. Tout le « c'était mieux avant » qui peut s'en sortir. Donc, j'ai longuement hésité. Et en même temps, j'aimais que finalement... Le train, il va, en gros, il fait une ligne de droite à gauche ou de gauche à droite. Et là, ça fait une espèce d'épaisseur temporelle qui se passe un petit peu autrement. C'était ça que je cherchais. Je voulais pas forcément dire nostalgie. Et finalement, ce qui fait que je pense que ça le fait pas trop, c'est que j'ai traité des images de maintenant de la même façon quand je parlais de ces images insérées d'un coup, qui n'ont rien à voir. Il y en a qui viennent des archives. Puis à un moment donné, il y a un gars qui est en train de brûler des herbes que j'ai inséré en plein milieu. C'est quelque chose que j'ai filmé sur l'île d'Elbe pendant le confinement. Et j'aimais bien cette image, qui était comme une image mentale, un peu inconsciente. Et hop, je l'ai glissée comme j'ai glissé les autres. Je les ai traitées exactement de la même façon. C'est vrai juste que la balade au bord de la mer, elle est faite avec des images d'archives. Je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi.
C'est plus romantique.
Ouais, je me suis laissée prendre par un truc comme ça.
Ok. Juste une petite question pratique, du coup, la région centre, ils font payer l'usage des archives?
Oui, mais en fait, c'est tout à fait négociable, c'est tout à fait sympathique, c'est tout à fait agréable. C'est vraiment des personnes qui sont dans le dialogue, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est pas moi qui ai payé, c'est le prod, mais je sais que ça a pas été... On n'avait pas un budget énorme pour ce film, ça a pas été quelque chose qui était plombant. Alors que Lina, ils sont vraiment en impression que c'est de l'or. Et peut-être c'est de l'or, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage, ça fait que ces images peuvent pas trop circuler facilement. Là, j'ai trouvé que c'était... C'était aidant et en confiance, ça m'a vraiment fait plaisir.
Et en termes de prod, est-ce que tu peux nous dire justement quel type de financement vous avez eu?
On n'a pas eu grand-chose, on a eu de l'argent de Nouvelle-Aquitaine, parce que ma boîte de prod, elle est domiciliée en Nouvelle-Aquitaine, et elle vient de là, hein, elle vient de Bordeaux. Et on a eu, moi j'oublie un peu, je suis désolée, mais on a eu de l'argent par ce biais.
De la région.
De la région Nouvelle-Aquitaine. Et pareil, c'était pendant le confinement, j'étais censée venir les voir. Finalement, j'ai dû leur envoyer une vidéo. Mais en fait, c'était pas un film qui avait besoin de plein d'argent, objectivement. J'ai pu avoir ce super mixeur son, ces deux personnes qui sont venues bosser avec moi faire le chef-op. Et sinon, l'équipe de tournage, elle était extrêmement réduite. Donc,
les archives.
Et les archives, ouais. Et en fait, c'est vrai que autant je trouve ça super d'avoir de la thune pour faire des films, autant j'aime aussi faire des films un peu dans des dimensions bricolées, spontanées, qui se glissent dans l'existence, qui se glissent dans des voyages qui sont déjà faits. J'ai pas envie de faire toute ma vie des films comme ça, mais j'aime aussi cette dimension un peu croquis, quoi.
Alors, on va écouter un deuxième extrait de ton film. C'est le moment que tu évoquais, en fait, où tu reprends le train, tu nous racontes une deuxième histoire de train avec une contrôleuse et le dieu qui arrive dans l'histoire.
C'était encore dans le train. J'avais eu la mauvaise idée d'acheter une carte de réduction qui ne m'a presque pas servi. Je la cherchais, mais juste 2 secondes. Et la contrôleuse me dit: vous pouvez dématérialiser votre carte en allant sur le site, etc., etc. Souvent, quelqu'un me dit d'aller sur un site alors que je suis là devant. Mais là, c'était la première fois que j'entendais dans un dialogue assez banal avec quelqu'un le mot dématérialiser. Comme ça, dans un contexte pas du tout spirituel ni philosophique. Ce mot, ça pourrait donner l'impression de ça, de philosophie, de pur esprit. C'est un sacré mot quand même, dématérialisé. C'est presque comme une chose magique. Et là, dans une ambiance un peu plan-plan, il y avait cette femme qui faisait son boulot de contrôleuse et qui me suggérait une dématérialisation. Je crois que j'ai eu une vision à ce moment-là.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, dans l'émission On a déjà traité le sujet, de l'association ADOC. Donc, dans cet extrait, on entend tes réflexions, Eleonore, sur le fait que, est-ce que ce numérique, ce virtuel ne deviendrait pas finalement une sorte de surnaturel. Ça m'a fait rigoler parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ton film, Nathan. Ce moment où Otto dit, mais en fait, il y a une religion qui se crée, qui risque de se créer. On dit qu'il va y avoir une religion. Donc ça m'a fait marrer de voir cet autre point commun entre vos films. Ce surgissement du surnaturel. Nathan, est-ce que toi, de ton côté, tu peux nous parler du travail très intéressant que tu as fait sur l'image Donc, on a d'un côté, comme on le disait, les interlocuteurs d'Otto, qui, eux, c'est une image classique de visio, webcam, ils sont cadrés à peu près tout le temps de la même manière. Et par contre, Otto, c'est vous qui le filmez, et là, il est bord cadre, il y a des éclairages blafards. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Mais déjà, moi, c'est comme toi, j'aime, comme le film d'Éléonore, j'aime beaucoup le mélange des formats. Donc là, il y a aussi un troisième registre. Donc, d'où notre popote interne, on avait divisé en trois, on avait les webcams, la caméra, et on avait appelé ça le vortex numérique. C'était toutes ces images qui viennent du site, des tâches qu'ils sont en train de faire. Mais on voulait les prendre très au sérieux, en fait, comme on prend au sérieux, comme on cadre cette pièce ici. Et alors, il y avait une raison très pratique de... En fait, il n'y a pas de mouvement dans le film, c'est que tous des photos, on va dire, des plans fixes. Et il n'y a pas de découpage. Donc, et en fait, c'était aussi une raison pratique pour que la fiction soit presque comme un documentaire où on allait tourner chronologiquement. Et comme ça, sans scénario, on pouvait faire ce qu'on voulait au montage parce que, voilà, c'est une photo, un plan, et on passait à la suite. Et donc, effectivement, c'est des choses... c'est un peu l'inverse, c'est très statique, mais c'est très, je pense, le montage assez dynamique. Mm-hmm. Et en fait, c'était aussi filmer un huis clos, parce qu'en fait, c'est le film ne se passe que dans une chambre presque d'étudiant, on peut dire. Mais alors, il y a un huis clos réel et il y a une sorte de hors-champ numérique. Et en fait, moi, je pense qu'il y a aussi des raisons de production, c'est que j'ai un étudiant, donc c'est un film d'une école en campagne belge, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc je voulais dire, mais comment je peux aller partout dans le monde sans argent? Et donc en fait, il reste dans sa chambre. Et en fait, déjà, il travaille dans Google Street View, donc il se balade dans le monde entier, dans les rues. Il a des contacts au Brésil, il a des contacts en Thaïlande. C'était aussi de montrer un côté mondialisé. Donc il fallait faire une sorte de double huis clos, le huis clos numérique et le huis clos de la chambre. Mm-hmm. Donc c'est le cadrage. On a voulu montrer cet enfermement et aussi un espace qui vit, parce que. En fait, ce qui est vrai, dans beaucoup de pays, dont la Belgique, on est payé en bon d'achat Amazon, donc c'est pas un... Et donc, en fait, on a une sorte d'accumulation d'objets, de cartons Amazon, mais qui est... Tout le monde m'a dit ça, on m'a dit, mais j'achète que des gadgets depuis 2 ans, avec le peu d'argent que je gagne sur ce site. Et donc, à la fin, ça devient une sorte de grotte remplie et de cartons. Alors, il y avait aussi un peu l'illustration de la caverne de Platon, parce que... La dernière, on peut parler de la fin du film.
Bien sûr.
Oui, la dernière scène du film, en fait, parce que le personnage, à un moment, se obstrue ses fenêtres d'aluminium. Parce qu'en fait, souvent, ça, c'est un témoignage que j'ai entendu souvent, c'est la lumière du soleil dérange pour travailler sur l'ordinateur. Donc, il se crée sa caverne. Puis à la fin, il gratte un petit peu et il y a un caméra obscura qui apparaît. Et donc, qui met l'image du monde à l'envers.
Et sur le fond de sa chambre.
Sur le fond de sa chambre. Et au final, le personnage, tout au long du film, il a beaucoup d'informations de l'extérieur, du flux, mais c'est que des images incomplètes, déformées du réel. Et donc.
Et lui, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant la manière dont vous le filmiez, lui. Oui. Et très souvent, on le voit pas, on voit un petit bout. Enfin, et comment vous avez réfléchi ça, justement?
Ben, on voulait, à chaque fois, déjà un peu l'inscrire dans la chambre. On voulait. C'était comme des plans. Je dirais pas large parce qu'on est dans une toute petite chambre, mais on voulait l'inscrire dans des choses un peu inconfortables aussi. Et moi, j'aimais bien l'idée d'un personnage, peut-être parce que ça me ressemble, qui vit dans une petite grotte, mais qui l'exploite pas mal. Et on sent que c'est quelqu'un qui peut bosser dans son lit, sur cette chaise, par terre. Il est un peu inconfortable, il est un peu... Et aussi, il s'enferme dans quelque part, parce qu'au début, on voit qu'il a un bureau plutôt bien rangé, il commence à travailler comme assez normal. Et à la fin, on sent qu'il a acheté du matériel, plusieurs écrans, et il a transformé son espace en un truc un peu flippant. Et, et lui aussi, il se rase. En fait, il y avait aussi, on disait là, déstructurer le temps, parce que on n'a pas d'horaire dans ce boulot. On travaille la nuit, le jour. On peut faire 100 heures d'affilée si on le veut. Et donc, on voulait un peu déstructurer le temps. Des fois, il est rasé, des fois, il est barbu. Et en fait, on ne sait pas combien de temps, mais on a peut-être passé 3 mois de suite à faire ça. Enfin, il y a quelque chose de... Mm-hmm. Un peu perdre le spectateur, mais plus de manière sensible.
Et la lumière, vous avez beaucoup travaillé ça, ou c'est vraiment par...
Pas tant que ça. On était une toute petite équipe. C'est aussi un film très modeste, parce que c'est un film d'école. Donc, on était 3-4 sur le tournage. Et on a peu utiliser d'éclairage.
Non, mais du coup, en fait, il est éclairé souvent par son écran. Ouais, et du coup, c'est une lumière très blanche. C'est ça aussi qui donne cet effet.
Et en fait, dans le mouvement du film, c'est qu'au début, il y a quand même... il a une grande fenêtre. Et en fait, à la fin, il s'enferme. Donc, il y a de plus en plus l'écran qui l'illumine. C'est un peu... On va de plus en plus vers la lumière bleue de l'écran. Mais à la fin, je me suis dit, c'est trop triste. Je veux quand même une petite ouverture sur le monde à la fin. Et la caméra obscura, c'était...
Et l'appel à sa sœur.
Et l'appel à sa sœur.
Il reprend contact avec la vraie vie.
Ouais. Mais sous le... Ils l'ont... Parce qu'avant, en fait, il y a tous les, tous les Turcs lui disent aussi. De... Enfin, ça vient de beaucoup des autres qui lui disent...
C'est ça, qui lui dit ça, exactement, exactement. Et du coup, mais en fait, voilà, moi quand je disais, il est coupé, enfin on voit son nez, ses yeux. Ouais. Bon, ça, j'imagine que toi, quand tu dis c'est un film d'école, donc ça c'est ton film d'école, mais les deux autres qui étaient avec toi, eux aussi faisaient la même école.
Oui, oui, les.
Mais c'était votre film d'école.
Oui,
ou
en fait, c'est une école qui est très divisée par section, donc l'option montage, image, son. Interprétation, mm-hmm. et qui collabore pour le fin d'études. Donc, c'est que des étudiants bénévoles dans le cadre de leur fin d'études. Et la monteuse Tabata également. Et il y a juste le comédien qui est engagé pour le film.
Donc, du coup, le chef-op
est étudiant.
Et le prise de son, c'était ça ? Vous étiez trois, c'était ça ? Oui. Ils étaient tous les deux étudiants dans leur domaine, chef-op et prise de son.
Oui.
Donc du coup, j'imagine que chacun, quand tu disais c'était un atelier, chacun proposait si on faisait ça et si on essayait ça, etc.
Et aussi, ce que j'aimais bien, c'est que comme c'était en équipe documentaire, on était enfermés dans une toute petite chambre à 4-5, tout le monde faisait un peu tout. Le comédien, il avait des idées de mise en scène, il prenait le son par moment. Enfin, il y avait quelque chose de peu... vertical dans le tournage.
D'accord.
C'était un peu, c'est un atelier en fait.
Ok. Et est-ce que vous avez réfléchi le son d'une manière particulière ?
Oui, et ben en fait le film, je l'ai vraiment commencé à, il est devenu un peu concret dans mon esprit par le son parce qu'en fait ce qui me fascinait c'est que c'était un boulot. Alors on a dit le contraire avant avec la tâche où il engueule son, enfin il s'énerve contre son l'ordinateur quand il dit human not human. Mais c'est souvent, on est mobilisé à faire une tâche répétitive par les yeux. Et du coup, c'est souvent la première question que je demande en entretien, c'est qu'est-ce que tu écoutes ? Est-ce que tu parles à ta famille ? Il y a tes enfants à côté ? Il y a ta, tu écoutes de la musique ? Tu regardes des vidéos ? Tu écoutes la radio ? Et en fait, c'était un peu l'espace de liberté de tout le monde. C'était souvent, parce que des fois, il y a des tâches qui mobilisent Louis, c'était souvent le son. Et donc moi, à la base, le film, il est parti du son, c'est... L'écran, c'est le travail, et tout le reste n'existera que par le son. Et donc, c'était un peu ça le début du film. C'était des gens qui effacent des visages sur Google Street View et qui se parlent entre eux.
Mmh.
Et qui sont libres de dire ce qu'ils veulent.
D'accord.
Et en fait, c'est aussi le paradoxe. Amazon, il n'y a plus de patron, en fait. Donc, en fait, finalement, tout le monde était très libre, quoi, parce que c'est connu, Amazon, une société très difficile d'accès.
Mmh.
Je parle par exemple des entrepôts. Mais là, pour le coup, ils ont tous été très libres, mais ils ont même, enfin voilà, je disais mais prenez un pseudonyme, mais non, c'était assez, mais oui, vraiment c'est la dimension du son qui est d'abord existé dans les témoignages et les discussions.
D'accord.
Oui, j'ai une question. Comme tu dis, il n'y avait pas de patron avec Amazon. Il y a un moment donné dans le film où il discute avec une jeune femme de tous les bons d'Amazon qu'il a. Enfin, peut-être je me trompe, et il dit que elle dit qu'on est suspect si on utilise d'un coup ces bons Amazon.
Oui. Alors moi, je vais toujours dégommer parce que je suis pas un chercheur. Mais, et en fait, sur ce boulot, j'avais presque aucune littérature, donc j'ai un peu fait une enquête moi-même. Mais alors, en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'Amazon, c'est le magasin que tout le monde connaît. C'est, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est 10% de leur chiffre d'affaires. C'est gigantesque. Et en fait, le Turc mécanique, donc le travail dont je parle, c'est un fragment de la société. Et cette société est tellement grande que les top managers ne sont même pas au courant que ça existe, sans doute. Et sincèrement, je pense qu'ils ne le sont pas. Et donc, en fait, elles disent que, comme ils sont payés en bons d'achat et qu'ils commandent de manière un peu suspecte, et qu'en fait, les gens qui gèrent le magasin, ils ne sont pas au courant que ça existe, ce service d'Amazon, et ben des fois, on se fait supprimer son compte. Donc, c'est un peu l'absurdité. D'ailleurs, c'est très drôle parce que elle a vécu une scène du film où elle perd l'accès de son compte, et elle s'est battue. Et en plus, elle, c'est une Anglaise, donc elle maîtrise l'anglais.
Elle, c'est une interlocutrice d'auto.
Oui, une autre turqueuse, mais qui est britannique. Donc, elle me dit, mais moi, je maîtrise la langue, donc je doute que je suis une des seules à avoir pu retrouver mon accès. Elle a carrément envoyé un mail à Jeff Bezos, mais elle dit Steve Jobs, et c'est un peu un moment très rigolo du film.
Non, et du coup, ils sont suspects.
Oui.
Parce qu'en fait, on imagine, comme ils ne savent pas que ça existe, ils imaginent que ça serait une personne lambda qui a eu des bons Amazon.
Oui.
Et là, tout d'un coup, comme si c'était quelqu'un qui avait arnaqué
en
ayant plein de bons Amazon, alors que vous êtes payé en bons Amazon.
C'est ça.
D'accord.
Ouais.
Ok, intéressant. Ouais.
Chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venus parmi nous pour nous parler de vos films qui sont très intéressants et que du coup, nos auditeurs, auditrices ont certainement envie de voir. Est-ce que vous pouvez nous dire où c'est possible ces jours-ci? Voilà, où peut-on voir vos films?
Alors, pourtant, Le Paradis, là, il a un peu... fini son petit tour, je pense, avec la projection en Belgique à Anville. Et par contre, il est sur Tank. Enfin, il était sur Tank. Donc, il sera sur Tank en VOD et sur Univers Ciné en VOD.
Très bien.
Il sera aussi normalement sur Tank.
En attendant les robots.
En attendant les robots, ils reprendront des films de quelques semaines avant le festival des États généraux de l'USAS.
D'accord.
Donc, à mon avis, peut-être à partir de juin, mais je ne suis pas sûr. Et il est également sur Univers Ciné.
D'accord. Donc, quoi qu'il en soit,
au même endroit.
Et sinon, Tank, ça va dépendre un peu des agendas. Merci beaucoup. On passe la parole à l'agenda et quelques annonces de Radio Libertaire. Radio Libertaire qui dépend beaucoup de vous pour fonctionner. N'hésitez pas à participer à la souscription en ligne en vous connectant sur son site internet. Il y a un besoin d'argent pour les équipements, pour le local. Donc n'hésitez pas à participer. Merci beaucoup.
Merci Caroline.
Merci.
Merci à vous.
Et voilà donc l'agenda du documentaire proposé par Adoc. Le prochain samedi d'Adoc, c'est le 9 mars, comme toujours à 11h au cinéma Luminor, avec le film de Laure Vermersch, Athénian matériel. À Athènes, en pleine crise grecque, le film raconte les fragments d'histoire de gens, pauvres, artistes, chiffonniers, ferrailleurs, dans le monde des déchets qui prolifèrent au rythme de notre surconsommation. Paradoxalement, loin de céder à la tragédie, leur récit pointe un monde qui reste à inventer. La projection sera suivie d'un débat animé par Marion Larry avec la réalisatrice Laure Vermersch. Le 46e Festival Cinéma du Réel, comme depuis 46 ans au mois de mars, aura lieu du 22 au 31 mars au Centre Pompidou. Et comme chaque année, Adoc y animera son débat d'Adoc. Ce sera le samedi 23 mars à 11h30. Intitulé « Filmer contre, tout contre ?» Ce débat rassemblera des cinéastes qui ont l'expérience d'œuvres diplomatiques. Ils et elles vont rencontrer l'adversaire, convaincus que la messe n'a pas encore été dite. Chacun, chacune inaugure dans l'espace de son film une place singulière où des rapports de force ne sont pas figés. Ce n'est plus nécessairement celui ou celle qui tient la caméra qui a le pouvoir sur le film. Il, elle, filme contre, mais aussi tout contre, en faisant confiance à un « nous » qui ouvre à l'optimisme. Ce faisant, il et elle prend le risque de rendre l'adversaire aimable. Parfois, au contraire, c'est la peur ou la colère qui s'invite. Bienvenue à ce débat, donc, le samedi 23 mars à 11h30 au Centre Pompidou, qui se tiendra avec les cinéastes Avi Moghrabi pour son film « Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon », Laurent Sibien pour ses films « Édouard, mon pote de droite », Mehran Tamadon pour son film « Iranien » et Carmen Castillo et Guy Girard pour « La flaca Alexandra ». Un docu près de chez vous, avec ce dispositif lancé fin 2023, Adoc propose des rencontres citoyennes autour de projections de films documentaires réalisées par des cinéastes membres d'Adoc dans toute l'Île-de-France sur les lieux de vie d'un public souvent à l'écart des propositions culturelles. En mars, 3 séances sont déjà programmées. Socoristas de Caroline Kim Morange, que vous venez d'entendre animer cette émission. Socoristas passera donc le 3 mars, c'est-à-dire ce soir à 19h30 au DOC, D-O-C, point d'exclamation, dans le 19e arrondissement de Paris. Nous ne vendrons pas notre avenir de Niki Velisaropoulou, elle aussi membre de Radio Adoc qui faisait la technique sur cette émission. Son film passe à Melun en Seine-et-Marne le 6 mars à 16h et à Meaux, toujours en Seine-et-Marne, le 8 mars à 14h30. Enfin, le jour où j'ai découvert que Jeanne Fonda était brune, d'Anna Salzberg, à Évry-Courcouronnes, dans l'Essonne, le 15 mars à 20h. Mais si vous n'habitez pas en Île-de-France, vous pourrez aussi voir Socoristas, le film de Caroline Kim Morange dans les Hautes-Alpes. Et nous ne vendrons pas notre avenir au théâtre de Dreux. Et j'avais encore pas mal de choses à vous dire. Mais juste pour finir, retour à Paris avec la sortie en salle du film de Daniel Kupferstein, Béziers, l'envers du décor. Le film sort au Saint-André-des-Arts du 28 février au 26 mars. Et le film est tourné en deux parties. Il aborde le journal municipal de Béziers, qui est tenu par Robert Ménard, qui avait été élu maire avec les voix du Front National. Vraiment un décortiquage très intéressant de comment ça fonctionne. Donc, voilà, ces séances suivies de débats animés par le réalisateur. J'arrête ici, nous allons céder l'antenne à Michel pour son mélange. Et nous vous donnons rendez-vous le premier dimanche d'avril, le 7 avril, pour une prochaine émission. Bon mois de mars à toutes et à tous.
Eh bien, 17h01, on va commencer le mélange, ici même sur Radio Libertaire. Michel Polizzi avec vous jusqu'à 18h30 et quelques. Et on va commencer avec un des anniversaires du moment, l'anniversaire de Antonio Vivaldi, le prêtre rouge. Non, il n'était pas communiste, ça n'existait pas à l'époque. Et on va écouter une version des quatre saisons, retranscrite pour 5 flûtes à bec avec Marion Verbruggen et le quartet de flûtes à bec des Flandres, dont on va écouter le printemps, hein.